Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 187e émission sur le 93.9 de Divergence FM, les 103.3, 102.0 et 104.1 de Radio Escapade et le 87.8 et 98.6 de Radio Larzac. Divergence numérique, votre hebdo consacré au logiciel libre avec cette semaine un sujet bigrement d'actualité. On va parler brevets unitaires et brevets logiciels. Ce sera après la revue de presse de l'April pour la semaine 47 avec Luc, Manu et Anthony. Un nouveau venu dans la revue de presse à qui l'on souhaite bienvenue. Ce sera donc un entretien avec Gérald Cedrati-Dinet, ingénieur en informatique, membre fondateur de la Quadrature du Net, monsieur brevet logiciel pour l'April notamment. On s'entretiendra autour de la décision du Sénat jeudi 21 novembre. Un vote autour du brevet unitaire et un vote sans débat et sans conscience, pourrait-on dire. Le projet unitaire qui, dans l'état actuel du texte, est une porte ouverte à la brevetabilité logicielle en Europe, dont il a été démontré la toxicité en matière d'innovation et d'économie. Frédéric Couchet sera aussi avec nous au téléphone. Frédéric Couchet, délégué général de l'April. L'April qui organise son traditionnel April Camp. Ce sera les 6, 7 et 8, à partir du 6 au soir et jusqu'au 8 au soir. Et ça se passera à Montpellier, ma bonne dame. Ça se passera cours Gambetta dans les locaux de la société Smile. Et puis, en fin d'émission, c'est de Fred ainsi qu'un autre des membres du BIB, le Hackerspace. Que c'est toi qui le fais, qui viendront nous donner les prochains rendez-vous et puis les prochains rendez-vous de Montpellier Libre pour terminer cette divergence numérique dont il y aura quand même un petit peu de musique. Le fil musical du jour est un album d'une cinquantaine de petits mix sonores d'une à deux minutes qui font voyager entre scratch, voix de l'écran, petit ou grand, et boucle. Ça s'appelle Tab et Anitech. L'album s'appelle Sights and Sounds et c'est sous licence Creative Commons by NCND 3.0. Pour l'heure, c'est la revue de presse de l'April qui nous occupe pour la semaine 47.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 47, année 2013. Salut Manu.
Salut Anthony.
Salut à tous.
Donc du nouveau, un nouveau Anthony qui nous rejoint pour la revue de presse. Heureusement, puisque Nicolas est coincé dans les embouteillages. Eh bien, bienvenue Anthony. Donc,
merci.
Tu vas commenter avec nous la revue de presse. Qu'est-ce qu'on a au sommaire cette semaine, mon Manu?
Sept jolis articles, une grosse actualité institutionnelle, avec plein de sujets qui parlent aussi de l'April, puisqu'on est, on est à la pointe de ces débats. Donc on va commencer avec les problématiques sur la surveillance, les technologies américaines, en particulier avec le Parlement européen, le brevet unitaire, la loi sur la consommation et les DRM, la TVA et des e-books. Les DRM, alors là, un truc particulier dans des voitures, l'administration et les logiciels libres, et pour finir, un petit truc assez rigolo qui s'est passé au Parlement sur un amendement pour les licences.
Alors, il faut quand même qu'on assure le service après-vente et qu'on mentionne quelque chose qui est dans les articles secondaires, mais qu'on avait évoqué ces dernières semaines, qui est Linus Torvalds a-t-il, oui ou non, eu des demandes de la part de la NSA pour mettre une backdoor dans Linux?
Et donc, la réponse, c'est oui, d'après son père.
Oui, son père est député européen.
Nils Torvalds.
Torvalds, il y a un S à la fin. Et il nous explique que son fils a été naturalisé aux États-Unis, enfin il est donc américain et donc il est sous le joug de la loi américaine, donc il ne peut pas s'exprimer librement là-dessus, mais son papa l'a fait à sa place.
Donc ça avait été le cas en fait dans une conférence où il avait été interrogé effectivement sur la possibilité de backdoor au sein de Linux. Il avait répondu assez adroitement en disant bien sûr non, mais en hochant la tête, donc ce qui avait déclenché une certaine hilarité dans l'assistance, mais laissé planer un certain doute également sur la possibilité ou pas d'avoir une backdoor. Donc son père semble confirmer en tout cas.
Son père, député européen, ce qui doit lui donner aussi une certaine force pour parler de ces sujets.
Une certaine crédibilité, oui.
Et là, en plus, gros sujet qui nous tombe dessus, le Parlement européen se rebelle parce qu'il y a des surveillances qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est l'article de Slate.
Slate.fr, l'Europe doit-elle se désintoxiquer des technologies américaines? Un article d'Amaël Guiton.
Donc c'est un bon article, assez conséquent, et justement, désintoxication des technologies américaines, c'est bien de ces sujets-là dont il s'agit. C'est que le Parlement lui-même est à la merci des outils qu'ils utilisent, du Microsoft et autres bêtises. Et donc, il est assez facile et ça a été montré par des gens, alors je crois que c'est Mediapart notamment, ils ont eu un hacker qui s'est promené au Parlement et qui a réussi assez facilement à aller lire les mails des députés.
Effectivement, ça a été, donc il est arrivé avec un petit boîtier, avec une configuration relativement simple, a pu piocher donc, les données livrées par les serveurs Exchange utilisées donc, par le Parlement. Ça s'est fait en relativement peu de temps.
Je crois qu'il a récupéré plus ou moins les connexions Wi-Fi des députés et qu'il s'est connecté dessus. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une réaction officielle en disant « Oui, mais alors ça pourrait arriver chez vous, c'est vraiment un truc qui peut toucher tout le monde. »
Mais tout à fait.
Oui, sauf que là, ce sont quand même des députés européens, donc on pourrait peut-être s'attendre à ce que ce soit un petit peu plus sécurisé et un peu plus contrôlé que la connexion de Monsieur Tout-le-Monde.
Moi, ce que j'apprécie, c'est cette remarque et cette réaction. Oui, on s'est fait avoir. Et effectivement, les logiciels qu'on utilise sont privateurs, vous empêchent de contrôler vraiment ce que vous faites. Et des associations sont sur le créneau, l'AFUL, l'APRIL.
Et la FSFE également.
Et la FSFE, parce que c'est des sujets qui nous touchent au plus haut point. Et là, bien, on s'en rend compte, on se rend compte que on est vulnérable. Donc peut-être enfin des réactions dans le bon sens de nos chers députés.
Alors une réaction intéressante aussi de la part donc, d'un cryptanalyste, Eric Filliol, qui dit que finalement, tout confier à Microsoft, c'est leur donner entièrement les clés de notre infrastructure.
En tout cas, c'est une bonne chose qu'un personnage comme lui prenne une position aussi franche là-dessus. ZDNet, brevet unitaire, incompétence et je m'en foutisme des sénateurs, un article de Christophe Auffray. Qui ose parler de nos glorieux sénateurs de cette façon-là ?
Oui, le titre est un beau troll, mais en même temps, le sujet est important et ils ont marché dedans, parce que là, ils ont fait une bêtise.
Et tu réponds pas à la question, qui ose utiliser ces termes-là ? C'est pas quand même très...
Je m'en foutisme. C'est pas très respectueux. C'est pas quelqu'un de chez nous ?
Si, un petit peu. C'est Frédéric Couchet, notre délégué général. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, Anthony ?
Visiblement, Luc, l'accord a été ratifié en quelques minutes sans aucune discussion. Donc c'est pour ça que Fred s'est élevé.
Et oui, un accord qui touche les brevets logiciels parce que effectivement, il s'agit d'unifier le système de brevets en Europe.
C'est bien.
Sur le principe, on n'est pas du tout contre, au contraire. Il se trouve que, malheureusement, ça donne encore plus de pouvoir à l'Office européen des brevets, qui ne sont pas des gentils de notre point de vue, puisque ça fait des années qu'ils accordent des brevets logiciels, c'est-à-dire qu'ils donnent des monopoles sur des idées, des vraies idées. Il se trouve que ces brevets ne sont pas utilisés et utilisables aujourd'hui, ils sont même illégaux, du point de vue de la loi européenne, mais, malheureusement, l'EEB continue à les délivrer à tour de bras.
Voilà, et puis ils ont une dynamique qui est complètement perverse par rapport au principe des brevets, qui est notamment de faire un max de brevets en... On se rappelle qu'il y a à peu près un an, ils avaient eu une grève de la part des gens qui bossent à l'EEB en disant, parce qu'en fait, ils leur avaient filé une prime. Et c'était une prime de résultat, l'EEB a fait de l'argent. Et donc on dit, on a fait de l'argent, on vous en donne. Et eux disaient, mais nous, on n'est pas là pour faire du rendement, on est censé faire un travail de tri et de conseil, on n'est pas censé délivrer un max de brevets. Donc ça montre bien toute la perversion du système qui s'est mis en place. PC Impact, les consommateurs seront-ils avertis de la présence de DRM ? Un article de Marc Ress.
Alors là encore, les institutions françaises et européennes, parce qu'il s'agit de faire descendre dans la loi française, il me semble, des principes sur la consommation.
Voilà, une sorte de directive, je crois, qui dit en gros que le consommateur doit être informé des limitations qu'il peut y avoir dans ce qu'il achète.
En tout cas, dans ce qui nous intéresse, et c'est vrai que c'est intéressant, on est à fond pour que les consommateurs soient au courant.
Effectivement, comme au niveau des e-books, par exemple, où le consommateur peut éventuellement être au courant, c'est une bonne chose de le démocratiser, en tout cas, l'information au consommateur.
Surtout, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que c'est l'information sur les limitations qu'il y aurait à l'usage d'un produit. Donc les DRM, les monotes numériques, Digital Rights Management, la gestion des...
Mesures techniques de protection.
Oui,
français,
on pourrait dire ça en français, effectivement. Donc des blocages qui sont souvent faits à votre insu. Et typiquement, vous achetez un DVD, vous pouvez le lire peut-être pendant un mois, deux mois, sur un certain lecteur, mais dans certaines conditions, et elles sont relativement nombreuses, ce DVD ne fonctionnera plus, les autres lecteurs vont le refuser, pour des raisons qui vous sont parfois inconnues, et il se trouve que ces mesures techniques de protection, elles peuvent être là sans que vous en soyez informé à aucun moment de votre achat.
En fait, ça fait d'une certaine manière passer le consommateur de l'état de... propriétaire de l'outil ou de l'application ou du CD ou de la musique à un état de locataire. Enfin, il loue sa musique, son outil ou autre.
Il loue le droit de l'utiliser, ce qui est même encore pire. Et
avec assez peu de garantie de pouvoir garder ce droit dans la durée, etc., puisque ça peut s'arrêter un peu quand le fournisseur le veut.
Et donc là, on est rageant parce que, justement, la directive n'est pas bien passée dans le droit français d'après les propositions qui sont faites.
Et ils ont un petit peu envie de pas trop s'embêter avec ça, parce que forcément, les industriels, ils ont envie de mettre des DRM, ils veulent pas qu'on les embête, ils veulent pas que cette grosse arnaque se voit. Et il y a un député qui est monté au créneau, c'est Lionel Tardy, qui est un député UMP, et bon, il a rué dans les brancards, c'est un député qui connaît très bien les sujets d'informatique en général, et donc bah, qui montre que tout ça ne tient pas la route, et on l'appuie tout à fait dans cette démarche.
Alors le gouvernement insiste, oui, il y aura bien information du consommateur pour ce qui concerne la présence d'éventuels DRM, mais ce sera défini dans des décrets et pas dans la loi. Donc certes, c'est possible que ce soit le cas, mais on en range un peu parce qu'il aurait dû y avoir ça.
Le gouvernement fera ce qu'il voudra de toute façon, puisque ce sera un décret, et que là, c'est lui qui décide. PC Impact, à nouveau, le gouvernement ne veut pas taxer plus lourdement les e-books avec DRM. Un article de Marc Ress à nouveau, c'est la suite du feuilleton.
Oui, c'est la suite du feuilleton. Je rajouterais, on a quasiment un jumelage avec PC Impact. Il se trouve qu'ils ont plein d'articles intéressants en ce moment. Marc Ress, c'est quelqu'un qu'on apprécie, hein, n'est-ce pas?
Bah, en général, il fait de très bons articles. Bon, là, il n'y a pas grand-chose de neuf. Hein.
Il se trouve que c'était un des sujets de la semaine, mais que ça continue de la semaine d'avant.
C'est intéressant de voir que ça continue à faire du bruit. Bon, on va pas s'étendre de plus de là-dessus, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans l'article.
Il y a des DRM, il y avait des TVA dont il était proposé qu'elles soient pas les mêmes quand on loue un droit de lecture plutôt que quand on achète un livre, même électronique. Bon, malheureusement, c'est tombé à la trappe.
Ça s'est terminé à la fois à l'Assemblée et puis au Sénat, donc.
Oui, bah là, il semblerait que...
L'amendement a été retiré, donc ce sera plus discuté.
Alors, on ne sait jamais, ça pourrait revenir par la porte de derrière, mais pas pour l'instant. Par contre, un sujet plus intéressant, plus amusant, moi, j'ai adoré.
Numérama, des DRM intrusifs dans la voiture électrique Renault Zoé. Un article de Guillaume Champeau, avec un point d'interrogation à la fin du titre, quand même, parce que, faut le préciser, mon ton n'était pas très explicite là-dessus. Donc, il y a des gens qui disent que cette voiture électrique est un dispositif qui permettrait à Renault de couper le jus, puisque sur les voitures électriques, la batterie est très chère, donc elle est mise en location, et un dispositif qui permettrait à Renault de couper la batterie à distance si on ne paye pas la facture.
Alors ça, c'est des choses qui ont été évoquées à cause des contrats, de ce que je comprends, et dans ces contrats, il y a effectivement des permissions, des autorisations de coupure, mais Renault assure que non, jamais ils n'utiliseront ce genre de capacité.
Mais c'est une possibilité qui laisse planer une sorte d'épée de Damoclès, finalement, sur l'acheteur de cette Zoé.
Ça peut arriver de mettre des trucs dans des contrats comme ça, par pure mégarde, hein ?
Oups, n'est-ce pas ? Moi, ce que j'adore, c'est que là, les DRM, donc les menottes numériques, le contrôle à distance, souvent, des industriels sur les consommateurs, eh bien là, on a quelque chose de concret, c'est pas du logiciel, c'est pas des médias, c'est une batterie de voiture, et donc la voiture, hein, voitures, on peut le dire, qui peuvent être bloquées, en théorie, à distance. En tout cas, ils en ont le droit légalement. Contractuellement, c'est quelque chose d'assez fort. Et là, bah, dans la voiture, mince, c'est au-delà des habitudes.
On va vers une électrisation, si je puis dire, de plus en plus poussée vers les voitures. Donc c'est quelque chose contre lequel il faut rapidement s'insurger si on ne veut pas que ça soit présent, en tout cas, dans l'ensemble des autres voitures.
Pour moi, ça a relativisé parce que bah, si on prend notre facture de téléphone ou d'internet ou d'électricité, si on paye pas, on se fait couper le truc. Alors évidemment, pour l'électricité, le gaz, en attendant les compteurs dits intelligents, il faut que quelqu'un se déplace, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on paye pas son téléphone, on se fait couper le téléphone direct.
Mais
donc Renault pourrait dire, bah moi je loue un service, les gens ne payent pas, je coupe.
C'est la différence entre un service et un produit acheté. T'as raison d'un côté. Hein. Oui. Là, puisque c'est un service, eux se permettent de la même manière qu'avec des e-books, avec des DRM, c'est un service de lecture, on vous autorise un droit de lecture. Et bien là, vous avez l'autorisation d'utiliser la batterie, autorisation qui peut être levée à tout moment.
Alors voilà, est-ce que c'est à tout moment ou est-ce que c'est à chaque mois?
Je ne sais pas, c'est défini dans le contrat, il faudrait lire en détail.
Si je suis en milieu de la route pour me rendre à mes vacances, effectivement.
Ils sont quand même un peu raisonnables. Mais bon, le milieu de l'automobile, alors ça illustre aussi le fait que l'informatique aujourd'hui est partout. Et je ne sais plus qui avait dit qu'une voiture c'était un ordinateur avec des roues, et que aujourd'hui l'informatique elle est partout. Donc tous ces systèmes de contrôle ont une influence et vont avoir une influence de plus en plus importante sur tous nos aspects de la vie. Et ça c'est pour moi quelque chose, enfin que cet article illustre et qui est vraiment important. Et dans le domaine automobile, on sait que cette question du verrouillage, il est pratiqué depuis très longtemps puisqu'ils ont mis en place des clés spéciales pour que seuls les concessionnaires puissent démonter les voitures. À partir du moment où les voitures étaient de plus en plus informatisées, il a fallu avoir des équipements spécifiques pour faire du diagnostic et de la réparation, et tout ça pour verrouiller, enfermer les utilisateurs dans leur réseau, et on voit une parfaite illustration de ce qu'on connaît dans l'informatique, dans le domaine de la bagnole, et eux, ils ont mis en place depuis très longtemps. Le Mag IT, logiciel libre dans l'administration, le préfet de l'Isère s'en mêle, un article de Cyril Chausson.
Et une bonne nouvelle, ça fait du bien. Il se trouve que l'April se bat sur ce sujet-là depuis longtemps, les marchés publics, où il ne faut pas, de notre point de vue et du point de vue de la loi, faire mention explicitement d'une compagnie, d'une société, ou même d'un logiciel privateur, puisque souvent c'est associé à une société en particulier. Et donc, il ne faut pas que les administrations, notamment, fassent des appels d'offres qui sont non neutres, on va dire, qui sont vraiment orientés sur déjà la personne à laquelle ils vont fournir cet appel d'offres. Donc, les logiciels libres ne sont pas bloquants. En effet, n'importe qui peut faire un appel d'offres, peut lancer des marchés publics qui incluent des références à des logiciels libres en particulier. Toutes les entreprises peuvent y répondre, donc c'est très ouvert.
Oui, puisque le code est ouvert, même Microsoft peut répondre à un appel d'offres qui demande du logiciel libre.
Et là, pour le coup, grande nouvelle, le préfet de l'Isère, eh bien, lui, il dit, voilà, il faut appliquer ces règles-là, ce qui ne devait pas être le cas dans tous les cas, loin de là, et donc suivre les directives, suivre la circulaire RO qui met en avant justement les logiciels libres dans les administrations, essayer un petit peu de mieux s'organiser, de mieux travailler avec les bons outils.
Bon, c'est assez rigolo de voir le préfet qui est comme le représentant du gouvernement, de l'administration centrale, aller faire la morale aux collectivités territoriales quand le ministère de la Défense passe un accord open bar sans faire d'appel d'offres. PC Impact, les licences libres, poil à gratter de la PPL sur la contrefaçon, un article de Marc Ress. La PPL, c'est quoi ?
Et je ne sais pas du tout, c'est pas super bien indiqué dans l'article, ou tout simplement on n'a pas les yeux en face des trous, mais en tout cas c'est quelque chose de sympa.
Projet de ou ce genre de choses. Donc les Verts ont passé un amendement qui ressemblait un petit peu à celui des DRM dont on parlait tout à l'heure, qui veut reconnaître dans les lois sur la contrefaçon des logiciels que des gens qui ne respecteraient pas les dispositions copyleft seraient reconnus comme faisant la contrefaçon de logiciels, donc aligner le non-respect des licences libres sur la loi sur la contrefaçon. Donc c'est pas mal dans l'idée, mais il y avait un petit souci dans leur proposition.
C'est peut-être un peu fort, et c'est peut-être mettre de côté tout un autre pan des logiciels libres qui ne sont pas forcément sous copyleft, c'est-à-dire qui n'assurent pas la liberté et qui n'empêchent pas de propriétariser un logiciel libre.
Ça veut dire que quand on fait des modifications, on n'est pas obligé de les diffuser sous la même licence. Voilà. Et donc, du coup, c'était quand même hyper spécifique. Et puis après ça, il y a plein de petites variations dans les licences. Donc, c'est une réaction de l'April qui dit qu'on aurait préféré qu'il fasse mention des licences libres sans rentrer dans le détail. Donc, ça montre une méconnaissance des sujets. Et voilà, c'est une petite occasion ratée. C'est dommage.
En même temps, c'est des sujets très particuliers, très précis. On est assez connaisseurs. C'est pas étonnant qu'eux ne peuvent pas connaître exactement tous ces détails. On apprécie l'idée et on encourage parce que en tout cas il y a des gros travaux qui sont faits dans les bonnes directions.
Ils ont dit qu'il reviendra à la charge aussi, donc on espère que ça va se faire.
Mais donc, et que les discussions vont continuer donc.
Sur ce, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et on les remercie pour cette excellente revue de presse. Un petit peu de musique donc avec notre fil musical du jour. Ça s'appelle Tab et Anitech. L'album s'appelle Sights and Sound. C'est en Creative Commons by NCND 3.0. On écoute le premier titre qui s'appelle Opaque. Divergence numérique sur Divergence FM, Radio Escapade et Radio Larzac. Entretien avec Gérald Cedrati Dinet, ingénieur en informatique, responsable à l'April des brevets logiciels et cofondateur de la Quadrature du Net. Nous sommes en ligne avec Gérald Cedrati Dinet, ingénieur en informatique et responsable concernant les brevets logiciels à l'April depuis 2007, aussi cofondateur de la Quadrature du Net. Bonjour Gérald.
Bonjour.
On est ensemble pour parler brevets logiciels, pour parler brevets unitaires, puisque c'était ce jeudi 21 novembre 2013, que le Sénat adoptait le projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, et ceci sans aucun débat. Alors une absence de débat regrettée par l'April, qui se désole que les sénateurs ne se soient pas saisis de ce texte qui, comme l'accord international qu'il ratifie, a été présenté comme purement technique. Alors ceux qui nous écoutent vont se dire « oulala, de quoi ça va parler, on n'y comprend rien, etc. Alors, peut-être ce qui fait la une de l'actualité en ce moment, c'est les nombreux procès que se livrent les géants de la téléphonie et qui sont déjà un bon exemple de ce qui peut se passer autour de ces brevets, non ?
Tout à fait. Lorsque j'ai commencé à me lancer dans la lutte contre les brevets logiciels, je dirais en 2003, je devais expliquer en quoi ces brevets logiciels étaient dangereux à la fois pour n'importe quel programmeur informatique, mais également pour tout utilisateur d'informatique. Et maintenant, avec les smartphones et autres tablettes, on sait que l'informatique est partout dans notre vie. Donc je devais expliquer quels étaient les dangers, pourquoi le brevet n'était pas du tout un instrument adapté au logiciel, qui est un outil mathématique avant tout. Maintenant, j'ai même plus besoin de faire ça, parce que tous les dangers que l'on soulevait à l'époque se révèlent. Alors c'est vrai qu'ils se révèlent plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, mais on est devenu à un point tel que à peine 3 ans après avoir fait une grande loi sur les brevets aux États-Unis, une loi qui modifiait un petit peu le droit des brevets outre-Atlantique, ce qui n'avait pas été fait depuis des dizaines d'années, le président Obama a jugé opportun d'intervenir, c'était courant 2013, pour proposer des mesures à la fois administratives et des lois, pour mettre un terme à ce qu'on appelle les actions des trolls de brevets. Vous savez, ces sociétés qui développent aucun produit, qui ne vendent aucun service, mais qui achètent des brevets, qui rachètent des entreprises qui possèdent des brevets et qui font tout leur business model sur ces brevets en attaquant en justice des concurrents ou en simplement en les menaçant. On a les immenses procès des géants de la téléphonie, je pense à Apple contre Samsung, où à un moment il y avait une amende de plus d'un milliard de dollars. Enfin, ce qui apparaît maintenant au grand jour, ce qui fait que j'ai plus besoin d'expliquer pourquoi les brevets logiciels sont dangereux, c'est que on a détourné complètement l'objectif premier des brevets, qui était de favoriser l'innovation. On voit maintenant que le brevet, c'est une arme de guerre économique pour écarter les concurrents, bénéficiant rien ni à l'innovation, ni aux entreprises, ni aux citoyens.
Oui, c'est à rapprocher un petit peu de tout ce qui peut se passer d'activités spéculatives et à la limite du bon sens, en tout cas, si ce n'est de la légalité au niveau des bourses.
Tout à fait. On a dans le domaine des brevets ce qu'on peut appeler une bulle. Il y a certains acteurs qui vivent dans cette bulle et qui n'ont d'autre but que de la faire grossir. Et puis il y a tout le reste de la société pour qui cette bulle flotte et menace d'éclater un jour ou l'autre.
Un psychiatre pourrait dire exactement la même chose d'un schizophrène.
Tout à fait.
À ce titre, en termes de schizophrénie, il y a alors on l'a souvent dit dans Divergence numérique, mais ceux qui n'y connaissent rien, ça peut-être les éclairer. Il y a l'Office européen des brevets en Europe, qui est un office qui n'a d'officiel que lui-même, puisque ça ne dépend pas d'un État ou d'une administration publique quelconque, qui, en dépit du fait que les brevets logiciels n'aient pas cours en Europe, où le logiciel est encore, et c'est tant mieux, protégé par le droit d'auteur, cet Office européen des brevets enregistre et encaisse des brevets logiciels qui sont déposés par des acteurs d'un peu partout, pour le jour où, éventuellement, le lobbying des pro-brevets logiciels en Europe porterait ses fruits, et où, enfin, ils pourraient avoir cours, tous ces brevets qui sont enregistrés. Ça aussi, c'est une activité dont on peut se demander si c'est vraiment légal.
Tout à fait. On peut peut-être tracer très brièvement l'histoire justement de l'Office européen des brevets, et ça va nous amener au vote du Sénat de la semaine dernière. L'Office européen des brevets, en fait, c'est un des acteurs majeurs de cette bulle des brevets. C'est lui qui est chargé de délivrer un brevet, d'accorder ou pas un brevet lorsqu'une demande est faite. Avec des critères qui sont ce qui est demandé doit être nouveau, donc jamais employé, ça doit être inventif, donc il faut qu'il y ait une certaine dose d'intelligence, je dirais, dedans. Et puis ça doit s'appliquer à un domaine qui est brevetable. On ne peut pas breveter une formule mathématique, normalement. Et normalement, on ne peut pas breveter non plus effectivement un logiciel. Ça, c'est dans le droit européen des brevets qui est appliqué par l'Office européen des brevets. Et ce droit, il dérive d'un accord international. C'est-à-dire que ce sont les États européens au sens très large. Hein, ça recouvre beaucoup plus que l'Union européenne, puisqu'il y a la Suisse, la Turquie, Monaco, des pays comme ça qui font partie donc de l'Office européen des brevets. Donc cette organisation internationale, elle est contrôlée par personne, si ce n'est son conseil d'administration, qui est formé des directeurs des offices nationaux des brevets, c'est-à-dire que le directeur de l'INPI, donc l'office des brevets français, qui délivre des brevets français, va siéger au conseil d'administration de l'OEB pour décider de la politique de l'OEB. Et c'est le seul contrôle qui y ait. Effectivement, cet office, il n'a d'autre but que de favoriser l'obtention de brevets. Finalement, il ne sert pas à l'intérêt public, mais il sert ses clients, qui sont les demandeurs de brevets. Et il a également une obligation d'être rentable. Et comme il se finance uniquement par les taxes sur les brevets qu'il accorde, plus il accorde de brevets, plus il est financé. Donc on voit qu'il y a déjà une incitation à accorder des brevets sur le plus de choses possibles. Et c'est comme ça que, depuis les années 80, l'OEB, donc l'Office européen des brevets, a accordé des brevets sur des logiciels, alors que le droit plaçait les logiciels dans les domaines qui n'étaient pas brevetables, comme les mathématiques, par exemple. Seulement, il y a un petit problème, c'est qu'une fois que l'on a reçu un brevet de l'Office européen des brevets, on doit le faire valider dans chaque pays qu'on a désigné pour lequel ce brevet s'appliquera. Donc on doit aller à l'INPI, on doit aller à l'office anglais, à l'office allemand, à l'office espagnol, traduire éventuellement ce brevet. Il y a quelques aménagements, mais en général on doit traduire au moins sa partie principale, et puis payer des taxes de redevance à chacun de ces brevets nationaux. Et puis ça vous donne quoi? Ben ça vous donne juste un bout de papier disant que vous avez un monopole sur une technique, un produit ou un procédé qui vous permet d'empêcher tout concurrent employant cette même technique de le faire. Donc on voit ici qu'il y a déjà un premier souci, c'est que quand on a un brevet, on a un bout de papier. Maintenant, si on veut empêcher un concurrent d'employer la technique décrite par ce brevet, on doit aller en justice pour faire valoir ce brevet. Et là, il y a un juge qui dira « Ah ben, l'entreprise B a violé le brevet de celle de A, donc elle doit cesser de fabriquer ce produit-là, et puis payer une somme en dédommagement à la première entreprise détentrice du brevet. » Alors là, il y a un gros problème pour ceux qui détiennent des brevets logiciels accordés par l'OEB, c'est qu'ils ne sont pas sûrs que le juge va, de même que l'office, dire que ce brevet est valide, puisque le droit européen dit que les brevets sur les logiciels ne sont pas valides. Donc il y a une tentative, ça a duré de 2002 jusqu'à 2005, pour enregistrer dans le droit de l'Union européenne, cette fois-ci, le fait que les logiciels étaient brevetables. Cette tentative, avec une forte mobilisation des citoyens, a heureusement échoué, le Parlement européen ayant rejeté cette directive. Donc on se retrouve dans une situation où il y a un office des brevets qui accorde des brevets sur des logiciels qui ne seront peut-être ou peut-être pas valides en justice quand on tentera de les exercer. D'où le projet actuel de juridiction unifiée des brevets et de brevets unitaires, qui, au lieu d'avoir une dizaine de brevets nationaux éparpillés sur toute l'Europe, a voulu concentrer ça en un brevet unique pour l'Europe. A priori, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis qui a voulu créer un tribunal unique, une juridiction unique plutôt, pour juger de ces brevets, les exercer, au lieu d'aller devant les tribunaux de chaque pays pour faire cesser une contrefaçon. Maintenant, le détenteur d'un brevet pourra aller devant cette juridiction unifiée. Le problème, c'est que on a confié la gestion de tout ce système unitaire, unifié, à l'Office européen des brevets, qui, comme on l'a vu, n'est pas contrôlé, a toutes les incitations pour accorder le plus de brevets possible, et notamment sur les logiciels. Et donc on a une grande crainte que ce brevet unitaire et cette juridiction unifiée fassent entrer en Europe ce qu'on observe depuis de nombreuses années aux États-Unis, c'est-à-dire une inflation faramineuse exponentielle du nombre de brevets logiciels accordés et du nombre de procès sur ces brevets.
économiquement et même plus généralement quand on en vient à faire des procès, c'est qu'il y a un problème. Donc si on se rend compte qu'effectivement d'avoir une situation au niveau des brevets qui serait celle-ci, ça ferait que gaspiller de l'argent en procédure et en conflit. Donc manifestement ça n'est pas une bonne idée. Alors qu'est-ce qui fait que les sénateurs ont se sont même pas emparés de ce texte? N'ont-ils tout simplement pas compris? N'ont-ils pas voulu le comprendre? Qu'est-ce qu'il faut y voir?
Un peu des deux. Simplement, on a vraiment toutes les preuves dans les yeux en regardant ce qui se passe aux États-Unis, où il y a des brevets logiciels et qui sont validés par les tribunaux depuis des dizaines d'années. Par exemple, des entreprises comme Google ont déclaré qu'ils dépensaient maintenant plus d'argent en frais juridiques liés à ces brevets, plus d'argent qu'ils dépensent en recherche et développement. On a des études qui montrent que le coût des trolls de brevets dont je parlais tout à l'heure s'élève à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Donc on sait que économiquement c'est un fiasco. Et dans cet accord, donc sur une juridiction unifiée du brevet, on n'a aucune étude économique qui montre que les entreprises européennes et l'économie européenne dans sa globalité gagnera de l'argent là-dessus. On n'a rien, et déjà les députés européens et les chefs de gouvernement ont voté l'année dernière ces projets sans avoir de chiffres leur montrant que c'était avantageux. Et donc maintenant, comme c'est un accord international pour ce qui concerne la juridiction unifiée, cet accord doit être ratifié par chacun des pays, et c'est donc ce texte qui est arrivé devant le Sénat la semaine dernière. Et les sénateurs, la plupart n'ont simplement même pas lu le contenu de cet accord. Ils ont fait confiance à la commission compétente, celle des affaires européennes, pour dire s'il fallait valider ou pas cet accord, c'est la ratification de cet accord. Et cette commission, elle est notamment dirigée par le sénateur Young, qui fut l'un des directeurs à l'OEB, qui fut directeur également à l'INPI, à l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, donc qui est un membre à part entière de cette bulle des brevets, ce microcosme des brevets dont je parlais tout à l'heure, et qui aveuglément favorisera tout projet qui tente à faire grossir cette bulle. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé au Sénat. Je suis pas dans les arcanes, évidemment, de ce vote, mais je pense que la plupart des sénateurs n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe. Pourtant, on les a alertés, hein, et qu'ils ont suivi leurs collègues qui avaient l'air de savoir de quoi on parlait. Or, il se trouve que ces collègues-là ont un avis qui est complètement biaisé.
Il y a un conflit d'intérêts manifeste, justement, par rapport au sénateur Young.
Tout à fait, mais c'est pas le premier conflit hein, qu'on voit. Il faut savoir que ce projet, il a été élaboré à la Commission européenne, en partenariat avec l'OEB, hein, qui, on le rappelle, fait pas partie de l'Union européenne. Mais bon, l'OEB a un peu aidé à faire la loi. Comment ? En détachant un de ses ingénieurs à la Commission européenne pour préparer ce dossier. Et puis la directrice de la Commission européenne en charge de ce dossier, Margot Fröhlinger, avant que le projet soit voté, mais quand il était déjà sur de bons rails, elle a quitté la Commission européenne pour devenir elle aussi directrice à l'OEB. On a aussi le président de la commission parlementaire au Parlement européen qui était chargé du sujet, qui, de manière tout à fait transparente et officielle, en même temps qu'il est président de cette commission et travaille comme conseiller pour un cabinet d'avocats allemand qui est très spécialisé dans les brevets. Enfin, les conflits d'intérêts sont extrêmement manifestes dans ce dossier. Et pourtant, ça a l'air de choquer personne.
Est-ce qu'au niveau européen, les associations comme la FFI ou la FSFE ou d'autres pourraient intenter une action en justice justement pour dénoncer ces conflits d'intérêts manifestes qui font plus ressembler ça à un panier de crabes qu'à un outil de progrès et de démocratie?
Pourquoi pas? Et enfin, je penserais plutôt à des associations qui sont spécialisées dans l'étude du lobbying, de la transparence et des conflits d'intérêts. Je pense à Anticor en France, il y a, je sais plus le nom exact, European Watch au niveau européen. Mais il est tout à fait possible de dénoncer ces conflits d'intérêts. Ils l'ont été, par exemple, pour Monsieur Leneuf, le président de la commission aux affaires juridiques du Parlement européen, qui est également membre d'un cabinet d'avocats en brevet. Ils l'ont été par la presse il y a 2 ou 3 ans. Cependant, il n'y a pas eu de répercussions ensuite. Il y a toujours quand même, si vous voulez, une espèce de corporatisme quand même dans ces sujets, qui fait que lorsqu'on attaque un député sur un conflit d'intérêts, ses collègues ont plutôt tendance à le soutenir qu'à viser l'intérêt général.
Paradoxalement, le brevet avait été inventé pour favoriser l'innovation et,
oui,
et un petit peu comme l'intermittent du spectacle permet aux phases de création d'être financées quand on n'est pas sur scène pour gagner des sous. Donc c'était, on va dire, une bonne idée au départ, mais si on réfléchit bien aujourd'hui, moi j'ai un exemple d'un ami personnel qui aurait pu déposer un brevet de robinetterie assez révolutionnaire, sauf que l'idée avait déjà été protégée par un inventeur professionnel et que bon, bah, tout ça c'était très compliqué, ça coûtait de l'argent, etc. Donc rien que déposer un brevet aujourd'hui pour quelqu'un qui a une bonne idée mais qui n'a pas d'argent, c'est carrément pas possible. Donc il y a déjà une sélection par l'argent qui bride un petit peu cette notion de d'innovation et de progrès. Alors quand on voit les montants des procès auxquels on a fait référence auparavant, tout ça va décourager les gens. Donc on a vraiment l'impression finalement toute cette administration n'est qu'un frein au progrès plutôt qu'un encouragement.
Tout à fait, il y a 2 choses dans ta question. En fait, il y a le fait de réduire le coût d'obtention d'un brevet, et c'est l'argument qui est avancé hein, pour ce projet par la Commission, par le gouvernement français, par l'Office européen des brevets, par tous ses promoteurs. Ils disent, avec ce brevet unique, ça sera beaucoup moins cher d'obtenir un brevet, puisque vous n'aurez plus à payer des frais de traduction, puisque vous n'irez plus que devant une seule juridiction au lieu de multiplier les procès dans chacun des pays où vous voulez que votre brevet soit protégé, que votre invention soit protégée. Donc on dit, ça va économiser des sous pour obtenir un brevet. Bon, déjà, ça, c'est soumis à caution parce qu'on n'a aucune idée de combien ça va coûter. Les taxes, par exemple, d'obtention et de renouvellement des brevets, elles sont en train d'être discutées. Et donc, on ne sait pas vraiment si ça sera moins cher d'obtenir un brevet unitaire qui couvrira la quasi-totalité des pays de l'Union plutôt que d'avoir un brevet qui ne couvrirait que la France, ce qui est en général ce que font les toutes petites entreprises. Elles ne cherchent pas à étendre leurs brevets à plein de pays, elles le font dans le pays où elles exercent. Mmh. Donc là, déjà, c'est soumis à caution. Mais le coût, il n'est pas seulement du côté des détenteurs de brevets, il est également sur toute la société et l'économie, tous les autres acteurs, ceux qui ne peuvent pas vendre ou fabriquer un produit ou un procédé parce qu'il y a un brevet dessus, ceux qui sont attaqués par des détenteurs de brevets, le coût est énorme pour eux. Et dans tout ce projet, on a regardé qu'un volet de l'affaire, que ce qui favorisait les détenteurs de brevets, encore une fois avec caution. Par contre, tout le reste a été oublié. Et par exemple, sur les coûts de traduction, on dit maintenant un brevet unitaire coûtera beaucoup moins cher, il faut plus le traduire dans une dizaine de langues. D'accord, mais il faut quand même comprendre ce brevet pour savoir si on risque de l'enfreindre ou pas. Et donc, c'est-à-dire qu'on a reporté le coût de traduction du détenteur, du déposant du brevet, qui ne doit plus le traduire. Mais par contre, tous les concurrents qui devront étudier ce brevet pour l'éviter ou voir s'il faut négocier une licence auront à payer ces coûts de traduction. Donc, c'est juste un transfert de coûts et du détenteur vers tout le reste.
D'autant que du coup, il pourrait y avoir des problèmes de traduction pure et dure.
Tout à fait. En plus, juridiquement, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais les textes concernant les traductions sur le brevet unitaire laissent un peu de flou parce qu'ils disent que pour faciliter les choses, on va mettre en place des traductions automatiques des brevets. Et c'est l'OEB qui est chargé, avec un partenariat avec Google, de mettre en place un système automatique de traduction des brevets. Mais ces traductions automatiques n'auront aucune valeur juridique, elles sont là simplement à titre d'information. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque le système automatique de traduction fera une petite erreur qui fait qu'une entreprise comprendra mal un brevet et l'enfreindra alors qu'elle croyait être dans son bon droit? Ça, on le sait pas.
concernant le cheminement parlementaire de ce projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, la prochaine étape, donc, c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que on peut espérer que les députés vont être un petit peu plus alertes sur ce thème que leurs collègues du Sénat?
Ben on peut tout à fait espérer que les députés français fassent quelque chose au moins aussi bon que ce qu'ils ont fait pour nous sortir de la crise économique. Non, bien sûr, je suis un peu ironique là-dessus. Hélas, ce qui devrait se passer, c'est à peu près la même chose qu'au Sénat. Les députés avaliseront la ratification de l'accord sans le regarder, à moins que ils soient suffisamment avertis des dangers. Et il y a un argument très simple pour leur dire de ne pas ratifier les yeux fermés cet accord, c'est de demander qu'il y ait une étude d'impact sur le coût et les bénéfices à retirer de cette juridiction unifiée. Il n'y en a pas. La dernière en date est de 2009 sur le précédent projet qui avait été retoqué par la Cour de l'Union européenne parce qu'il ne respectait pas le droit européen. Donc c'était sur ce projet-là qu'on a fait une étude d'impact, mais depuis que le projet a évolué et celui qui est aujourd'hui dans les mains des députés et des sénateurs, on ne sait pas si ça va engendrer des bénéfices ou des coûts pour l'économie européenne. Il y a d'ailleurs la Pologne qui a fait faire une telle étude par le cabinet de Loate et qui a décidé de ne même pas signer cet accord parce que cette étude d'impact montrait que cette juridiction unifiée des brevets serait préjudiciable en dizaines de milliards d'euros pour l'économie polonaise. Donc, j'encourage les citoyens à téléphoner à leurs députés pour demander simplement, avant d'avaliser la ratification de cet accord, de demander à ce qu'il y ait une étude d'impact. Ça semble la moindre des choses.
Le calendrier du passage à l'Assemblée nationale de ce texte, il est déjà arrêté?
À ma connaissance, non. Ça doit être examiné par la Commission des affaires étrangères. Il n'y a rien pour le moment dans son agenda de spécifiquement concernant ce dossier. Le premier jour où il y a des examens de projet de loi, c'est le mercredi 11 décembre. Ça pourrait être là, ça pourrait être plus tard, c'est pas encore bien défini.
Je ne saurais trop encourager ceux qui nous écoutent à aller faire un tour sur le site de l'April pour en savoir plus et retrouver tous les liens vers les sites qui vous aident à rentrer en contact avec vos députés. On essaiera de suivre ça d'assez près, en rappelant quand même que avec des logiciels libres et du matériel ouvert, on éviterait toutes ces dépenses de dizaines de milliards de dollars, si je ne m'abuse.
Tout à fait. C'est la réponse à une de tes questions précédentes. Au lieu de mettre des freins à l'innovation et à la concurrence, parce que le brevet c'est une arme anticoncurrentielle à la base, la coopération comme celle qu'on voit à l'œuvre dans les logiciels libres est certainement beaucoup plus profitable.
Gérald Cédratidiné, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, et puis à une prochaine fois sur les ondes de Divergence FM.
Merci Gilles et merci Divergence FM.
Et pour plus d'informations sur le brevet unitaire, n'hésitez pas à consulter le site brevet-unitaire.eu et notamment l'article « Seul Gandalf peut protéger l'Europe du brevet unitaire ». Toujours sur le site de l'April, on apprend que le préfet de l'Isère a adressé une circulaire aux administrations locales de la région pour les sensibiliser au respect des règles du Code des marchés publics en matière d'achats informatiques et les encourager à étudier des solutions offertes par les logiciels libres. L'April, le CNLL et le PLOS Rhône-Alpes se réjouissent que leur travail de sensibilisation porte ses fruits. Les organisations encouragent l'ensemble des préfets à suivre l'exemple du préfet de l'Isère. Un exemple à suivre donc l'intégralité de cette news sur april.org. Tabé Anitech, Physical Graffiti, toujours extrait de Sights and Sound, une musique qu'on retrouve sur Jamendo, sous licence Creative Commons by NCND 3.0. We'll be right back. peu près deux fois par an, l'association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, organise un April Camp, l'occasion de se retrouver pour bosser ensemble 24, 48 ou 72 heures. Ça se passe à Montpellier les 6 et 7 et 8. Frédéric Couchet, délégué général de l'April.
Bonjour.
On en parle ces jours-ci, il va y avoir un April Camp à Montpellier du 6 au 8, c'est-à-dire le week-end prochain. C'est de tradition à l'April que de faire des April Camp. Quelle en est la vocation, j'imagine, c'est renforcer les liens à l'intérieur de l'association?
Alors, on va déjà rappeler que l'April, c'est une association de promotion et défense du logiciel libre. Et donc, dans le cadre de nos activités, on a beaucoup d'activités, évidemment, sur Internet, mais on a aussi des activités physiques où on se rencontre. On travaille sur des dossiers, on discute, on échange, on fait avancer des projets. Et donc le principe d'un April Camp, en fait, c'est on se réunit pendant deux jours, voire un peu plus. Donc là, en l'occurrence, ça sera du 6 décembre au soir jusqu'au dimanche 8 décembre au soir, dans un même lieu. Pour avancer sur des projets, il y aura évidemment des outils de communication qui seront disponibles pour les gens qui ne seront pas à Montpellier. Par exemple, il y aura des gens qui seront à Paris. Et c'est ouvert à la fois au monde de l'April, mais évidemment à toute personne qui s'intéresse au logiciel libre, qui veut éventuellement participer à la promotion du logiciel libre ou qui veut simplement nous rencontrer. Les gens peuvent par exemple passer ne serait-ce qu'une petite demi-heure ou une heure pour discuter. En 48 heures, on a le temps quand même de faire avancer les projets et de discuter. Donc voilà, c'est l'idée de se rencontrer physiquement et on le fait assez régulièrement. On essaye de faire ça une fois tous les 6 mois. Et donc ce coup-ci, c'est à Montpellier. On est accueilli dans les locaux de la société Smile, qui est une entreprise du logiciel libre local, et on est aidé par les groupes d'utilisateurs locaux du logiciel libre, Montpellier Libre et la FRUL, la fédération, je crois, des utilisateurs de logiciel libre de la région.
Voilà, tout à fait. Ça se trouve Cour Gambetta, c'est assez central, donc assez pratique pour ceux qui nous écoutent et qui se diraient « Ah bah tiens, je vais y aller voir ». Et contrairement à ce qu'ils pourront s'imaginer, il n'y aura pas que des barbus devant des ordinateurs.
Non, il n'y aura pas que des barbus, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent contribuer, même sans forcément s'y connaître beaucoup le logiciel libre. Par exemple, je crois qu'il y a des gens qui feront des transcriptions de vidéos, de manière en fait à rendre accessibles des vidéos. Il y a des gens qui discuteront d'outils de sensibilisation du grand public autour du logiciel libre. Donc c'est intéressant d'avoir des gens qui ne sont pas du tout des experts en logiciel libre, parce qu'évidemment, quand on veut s'adresser au grand public, il faut s'adresser avec le langage du grand public, avec les images du grand public, donc c'est intéressant. Et il y aura des choses un peu plus techniques, évidemment. Et en tout cas, n'importe qui peut venir, ne serait-ce que pour discuter ou pour contribuer, on trouvera toujours quelque chose à faire ensemble. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer les gens qui font vivre l'April au quotidien pendant deux jours à Montpellier. Et on espère aussi rencontrer évidemment les autres acteurs locaux du logiciel libre, notamment sans doute peut-être plus précisément le samedi soir. On essaiera d'organiser un petit apéro en fin de journée. Donc c'est aussi l'occasion de passer, si les gens sont trop timides pour passer à un autre moment, de venir au moment de l'apéro et de discuter autour d'un verre.
Vous êtes combien à descendre de Paris ou d'ailleurs?
On sera peut-être une quinzaine. Ça fait partie des mystères de ce genre d'événement, c'est qu'on ne sait jamais. Il y a des gens qui peuvent arriver sans avoir prévenu. Mais voilà, on sera au moins une petite quinzaine. Il y en a d'autres personnes qui seront à Paris. Et puis il y en a qui seront dans différentes régions, sans doute connectées sur nos salons de discussion. Donc voilà, il n'y aura pas 150 personnes, ça restera à taille humaine. Et donc n'hésitez pas à passer pour nous voir, ne serait-ce que quelques minutes.
C'est accessible et ouvert au public. Et parallèlement, j'imagine qu'il y a aussi des questions de fond ou des questions de stratégie de l'April sur des thèmes précis. En ce moment, on parle beaucoup du brevet unitaire. On a beaucoup parlé des marchés publics et du logiciel libre ou des e-books ou etc. Donc, j'imagine qu'il y a déjà quelques thématiques qui vont faire l'objet de discussions.
Tout à fait. On va aussi traiter effectivement des dossiers que l'on gère au quotidien, notamment effectivement sur tout ce qui est menottes numériques, sur ce qui est brevet, sur ce qui est projet de loi consommation. Mais ça dépendra aussi des personnes qui sont présentes en fonction aussi de leurs envies. On va essayer de traiter l'ensemble des activités de l'April, que ça va de la traduction à la transcription, à l'administration système, mais aussi effectivement à la sensibilisation ou à des dossiers un petit peu plus compliqués. Donc c'est notamment si des gens suivent nos activités et veulent discuter avec nous de certains points précis de nos actions en cours, il ne faut surtout pas hésiter à passer. On se fera un plaisir d'y répondre et d'échanger à Montpellier.
Montpellier qui accueillera en juillet 2014 les rencontres mondiales du logiciel libre. C'est fort sympa d'avoir choisi cette date montpelliéraine pour l'April Camp.
C'est des gens de Montpellier qui nous avaient proposé, c'est notamment Pascal Arnoux, donc de la FRUL, qui nous avait proposé de venir à Montpellier, de trouver un lieu. Et effectivement, il nous a aidé à trouver un lieu à organiser. Et comme tu le dis, effectivement, l'an prochain, il y a les rencontres mondiales du logiciel libre à Montpellier. Donc voilà, l'April Camp, c'est un petit événement à côté des rencontres mondiales, mais ça peut être une première opportunité pour rencontrer des gens qui font du logiciel libre, qui essaient de promouvoir et de défendre le logiciel libre Donc en fond, les libertés à l'ère de la société de l'information.
Merci beaucoup pour ces quelques infos sur l'April Camp qui, je le rappelle, se tiendra à Courgambetta les 6, 7, 8 à partir du 6 au soir dans les locaux de Smile. Frédéric, merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
Salut.
À bientôt.
Et c'est De Fred qui est avec nous. Bonjour De Fred.
Bonjour.
Alors on est ensemble pour parler de faire un petit tour de Bib Actu, l'actualité du Bib, le hackerspace, que c'est toi qui le fais comme j'ai marqué sur le site.
Voilà,
c'est ceux qui sont qui le font. On va détailler les prochains rendez-vous qui vont nous occuper, à commencer par ce 3 décembre de 19h à 22h, l'atelier de Hannibal Lecter qui est un atelier de démantèlement, recyclage régulier.
Une semaine sur deux, l'atelier d'Hannibal Lecter qui est en mutation, on cherche à rendre l'atelier plus intéressant que uniquement dessouder de la résistance et du condo. Donc ça va être peut-être dessouder ce dont on a besoin pour un projet précis qui sera développé soit pendant l'atelier, soit dans un autre atelier, mais peut-être plus avec des objectifs. C'est Sylvain qui organise ça et qui s'y tient et qui connaît bien son affaire. Donc si vous voulez découvrir les joies de récupérer un ampli que vous avez trouvé dans la poubelle et puis piquer ce dont vous avez besoin pour faire mieux avec vos Arduino, ça peut être une solution d'économie et d'aller chercher dans les poubelles.
On rappelle que ça se trouve rue François Perrier au numéro
7.
Je faisais 3 de la main, j'avais tout faux. Ma mémoire n'était pas aussi affûtée que la programmation du Bib, qui le lendemain enchaîne avec les métallogues numéro 5, Jeu Data, Tu Data, du verbe datater, une série de performances conversations entre Annie Abrahams et Pascal Gustin.
Voilà, c'est l'idée d'utiliser un espace pour faire des échanges, des dialogues métallogues sur des fils traditionnels, la voix ou le corps, et des fils pas traditionnels du tout, par exemple du silicium ou une webcam. Et on va essayer de mettre en place au Bib une espèce d'installation passive de captation, mettre des webcams partout, essayer d'afficher ça à temps réel et sans loguer rien du tout. Ça existera le temps que ça passe et puis peut-être ça disparaîtra ou peut-être ce sera une autre installation, mais on voudrait que le lieu participe numériquement à quelque chose là-dedans.
Ce sera donc le 4 décembre et puis le lendemain, le 5, ce sera un atelier Raspberry Pi. Les Raspberry Pi, pour ceux qui ne le savent pas, sont de minuscules ordinateurs de la surface d'une carte de crédit ou un peu plus gros et puis de l'épaisseur d'un paquet de cigarettes, même si c'est pas bien de fumer, et qui permettent ce sont des ordinateurs qui sont pas les plus puissants au monde, mais qui permettent de faire à peu près tout ce que fait un ordinateur, ce qui permet aussi de désacraliser un petit peu le côté oh là là j'y comprends rien.
Et surtout, ça permet de mettre des ordinateurs un peu n'importe où pour faire un peu n'importe quoi. Et c'était le thème de l'atelier qui était plus généralement sur l'informatique embarquée, que ce soit avec les Raspberry Pi, donc ces petits ordinateurs, ou avec des microcontrôleurs qu'on connaît bien, Arduino, qui sont des petites plateformes de développement et de prototypage qui marchent très bien et qui sont là plutôt dans le domaine de l'électronique, du capteur. Et on peut faire marcher les deux ensemble. Donc l'idée, c'est de venir avec un projet d'embarquement ou d'installation qui impliquerait un Raspberry Pi. Ou un Arduino, ou les deux, ou quatre fois ça, développer chacun un projet sur cette capacité qu'ont ces petits ordinateurs qui sont quand même puissants comme des téléphones d'aujourd'hui. Venez avec un projet et on voit avec les compétences des gens du Bib comment est-ce qu'on joue avec un Raspberry Pi, comment est-ce qu'on joue avec un Arduino.
Et ces projets se montrent souvent en discutant lors du hackpéro du vendredi par exemple. Ce sera donc le 6 à 18h30 jusqu'à 21h30. Si vous avez...
Ce coup-là, on a un thème là sur le hackpéro et c'est important qu'on le dise à la radio. Dans le programme qui a été établi, le hackpéro du 6 parlera des bitcoins.
Ah,
j'en appelle à un spécialiste du Bitcoin qui pourrait venir nous en causer.
Si vous ne trouvez pas d'intervenant, je ne saurais trop conseiller à ceux qui nous écoutent d'aller écouter l'émission Divergence Numérique qui avait été diffusée le 3 novembre et dans laquelle on avait diffusé une interview avec Stéphane Laborde qui connaît très bien ces questions-là et qui nous avait un petit peu expliqué monnaie libre, qu'est-ce qu'une monnaie libre, etc. Une particularité du Bitcoin étant, je crois que le nombre d'unités monétaires est fini.
La somme totale est finie.
Voilà,
à 21 millions en 2030 normalement. Voilà, mais voilà. C'est une monnaie à forte spéculation, donc ça fait des variations assez délirantes et des petites histoires plutôt croustillantes.
Que vous pourrez aborder donc lors de ce Hackpéro du vendredi, ce sera ce 6 décembre de 18h30 à 21h30 au numéro 7 de la rue François Perrier derrière la gare. Et puis le 7 de 13h à 18h, ce sera un atelier initiation à Pure Data.
Donc Pure Data animé par Adrien Bololipsum, donc lui qui l'utilise plutôt pour la création sonore. Il était principalement orienté là-dessus, même si c'est vrai que maintenant on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec. Donc là, ce sera de l'initiation à ce logiciel par brique, parce que c'est un logiciel par brique avec sa logique et son apparence parfois déconcertante. Mais quand on est guidé, ne serait-ce qu'un truc d'initiation, on comprend bien la logique et la logique se répète. Et du coup, on arrive rapidement à faire des trucs très très intéressants avec Pure Data dans la génération sonore et où le traitement, les effets, voilà, c'est très puissant. Et ça marche sur toutes les plateformes, ce qui n'est pas inintéressant du tout.
Ce n'est pas forcément un rendez-vous qui sera régulier, donc soyez-y pour ce premier rendez-vous.
Bah oui, d'autant qu'on pourrait peut-être après faire un niveau 2, parce qu'il maîtrise le bougre, il serait bien capable de faire un niveau 2. Donc on lui fout la pression à la radio direct. Adrien, il faudra faire un niveau 2.
Absolument, il nous a entendu. Et puis un autre rendez-vous qui nous projette un petit peu plus loin, ce sera le 13-12-2013, le 13 décembre. Ce sera une projection DIY Media et Révolte de Huachaca, un court-métrage de Mal de Ojo TV, Huachaca de 2006.
Une série de courts-métrages qui relate la réappropriation des médias, des gros médias, des télés et des radios et un petit peu de la presse écrite, dans les révolutions citoyennes qui ont eu lieu à Huachaca et qui permettent de voir l'état politique actuel d'une ville comme Huachaca et l'état de la capacité des citoyens à récupérer les grands médias pour y diffuser plutôt leur message et servir plutôt leur cause dans le cadre d'une révolution populaire.
Avec plusieurs documentaires effectivement, tous donc de Mexicains en 2006 sur la lutte, 8 minutes lors du bicentenaire de Juarez à Huachaca, 8 minutes aussi, la victoire de la Toussaint 12 minutes, Morena 22 minutes ou le Cauchemar Bleu 20 minutes, tous de Mas de Oro TV, une initiative de production et de diffusion de matériel audiovisuel surgit dans le contexte du mouvement social des peuples de Huachaca, un collectif de communication indépendante qui ne poursuit aucun but lucratif et ne reçoit aucune consigne, ce qui se fait rare par les temps qui courent.
Voilà.
Ce voilà était fermé définitif.
Et voilà, par ailleurs, le BIB veut évidemment renouveler son appel permanent à venir toujours plus nombreux voir cet endroit-là et y participer et aider dans tous les moyens possibles avec du temps, du matériel, de l'argent, des connaissances. Voilà, plus on est de fous, plus on peut enseigner et apprendre. On invite tout le monde a passé nous voir quand c'est possible et quand c'est ouvert. Et on prépare une grande réunion assez ouverte le 10 décembre. Donc si vous voulez y passer pour entendre, constater le... je vais recommencer ça.
L'avancée.
Le bordel, je veux dire.
L'avancée ou la non-avancée.
C'est ça. Donc voilà, le BIB renouvelle évidemment son appel à tout le monde à passer nous voir, curieux, hackers ou simples citoyens qui veut par exemple apprendre à chiffrer, on n'en a pas parlé, voilà, on fait des crypto-parties aussi pour chiffrer ses communications en ligne, c'est pas inintéressant, on peut débattre et on peut être actif, il faut être actif avec le BIB.
Le bib.org.
J'ai le mot de la présidente aussi.
Ah, le mot de la présidente.
C'est important parce que c'est une balance sociale importante. Donc le mot de la présidente. Donc ça dit, ils ont beau être poilus, barbus, les yeux cerclés de binocles, rivés sur un écran d'ordinateur, ils n'en sont pas moins gentils, conviviaux, blagueurs, amateurs de bière. Bref, on les aime et ils ont besoin de nous, les meufs. Girls, on vous attend.
Et c'est sur cette tirade présidentielle que nous allons nous quitter. Merci de Fred d'être passé dans les studios de Divergence Numérique. À très bientôt.
Et on se quitte sur notre fil musical du jour, sans oublier de vous rappeler que c'est sur montpel-libre, montpel-libre.fr que vous pourrez retrouver tous les rendez-vous, les notions PC, la section d'Unilux, les points libres. À noter qu'il y aura un April Camp, ce sera les 6 et 7 à Montpellier. Les 6, 7 et 8 des membres de l'April viendront bosser pendant 3 jours. Ça passera cours Gambetta chez Smile. Et puis Notion PC, les JRES 2013, Notion GIMP PC, tous ces rendez-vous évidemment organisés par l'association Montpel Libre. On se quitte donc sur le fil musical du jour, Tab et Anitech Sights and Sounds. On retrouve ça sur Jamendo, toutes les renseignements sur l'article de cette émission divergence-fm.org. Et c'est Cohen Method qui nous accompagne. On vous souhaite une excellente semaine et surtout, restez libres.